ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Dufour, anthropologue et autrice de bande dessinée qui a notamment signé C'est le Québec qui est né dans mon pays, ainsi que Quand les élèves se révoltaient, en collaboration avec Francis Dupuis-Véry, tous deux publiés aux éditions Éco-Société. Emmanuelle Dufour, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à passer au balado. Avant d'ouvrir les micros, on a effectivement constaté que nous nous étions jamais vraiment parlé. Donc c'est un réel bonheur de vous avoir à l'émission. Pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, votre nom évoque évidemment la bande dessinée. Vous avez signé l'admirable bande dessinée « C'est le Québec qui est né dans mon pays », publié aux éditions Éco-Société en 2021. Et vous avez publié dernièrement « Quand les élèves se révoltaient », manuel d'histoire avant l'effondrement, en collaboration avec Francis Dupuis-Véry, toujours chez Éco-Société. Vous occupez vraiment, dans le diaporama de la bande dessinée québécoise, vous occupez vraiment une place singulière. En êtes-vous au moins conscient?
En fait, je vous dirais que dans le monde universitaire, c'est un peu la même chose. En fait, je pense que je suis un petit peu, tu sais, dans l'intercase, là, pour prendre le vocabulaire de la BD, là, tu sais,
Oui.
que ce soit au niveau disciplinaire, tu sais, entre les études autochtones, l'éducation par les arts, l'anthropologie, que ce soit entre la bande dessinée, puis les sciences qualitatives. Donc, je suis tout le temps un petit peu dans cette posture-là de. Mais je pense que je ne suis vraiment pas la seule. Puis c'est ce qui est beau dans la bande dessinée, c'est que tout le monde, en fait, on pourrait dire qu'il occupe une place assez singulière. T'sais.
Oui, mais de par la nature même aussi de votre production, c'est-à-dire que j'ai un peu de mal à définir. Dernièrement, j'ai tourné une vidéo sur C'est le Québec qui est né dans mon pays, et je crois avoir utilisé le terme d'essai graphique. Parce que c'est de la bande dessinée, mais en même temps, c'est vraiment un travail de recherche, c'est une prise de position qui est claire. Et au Québec, de la bande dessinée dans ce créneau-là, et puis ça, je veux dire, en général, au Québec, la bande dessinée, elle est effervescente depuis les 20 dernières années. Donc, on peut dire que ce que vous faites, vous êtes vraiment dans un sillon qui est fort intéressant, puis c'est nouveau.
On pourrait quand même penser à des personnes comme Martin PM ou bien
Ah oui.
Olivier Germain. La seule différence, c'est parce que, mettons, Martin, l'enquête qu'il a faite là, pour sa BD Un sacrifice tout naturel, je pense que ça a pris 5 ans à faire une enquête rigoureuse avec des demandes d'accès. C'est un travail peut-être plus journalistique, mais en fait, je lui ai souvent dit la grosse différence, c'est que lui, il ne s'inscrit pas. Il s'inscrit dans le milieu académique parce que, tu sais, il collabore avec les universités puis tout ça, mais si il aurait pu réaliser le même travail dans le cadre d'un doctorat, puis il aurait eu à défendre un petit peu ses assises théoriques puis tout ça, mais tu sais, des fois, c'est juste une question de où on s'insère, où le contexte, je pense, c'est vraiment ça la grosse différence, en fait.
Vous êtes de formation une anthropologue, c'est bien ça? Vous avez été la première au Québec à proposer en soutenance une thèse réalisée en bande dessinée. Qu'est-ce qui a justifié ce choix-là? Puis en fait, j'aimerais savoir comment la bande dessinée est arrivée d'abord dans votre vie de lectrice, puis sur votre parcours professionnel.
Ah, c'est une bonne question. Dans ma vie de lectrice, là, on peut remonter à vraiment, vraiment très, très tôt. Là, quand j'étais petite, c'était chaque semaine, je pense chaque semaine, ma mère nous amenait à la librairie, puis on avait le droit de choisir mon frère, moi, une bande dessinée. Et là, ouais, ben, ou tu sais, c'est peut-être aux 2 semaines. Là, maintenant que je le dis, je suis comme ça, ben, ça fait un gros budget. Mais pour elle, c'était vraiment la priorité. T'sais, on n'avait pas des gros cadeaux de Noël ou à nos fêtes, mais il y avait vraiment beaucoup de livres chez nous. Fait qu'on a toujours, on a grandi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Après ça, puis on les relisait, les livres. Mais là, on était vraiment dans la bande dessinée franco-belge, là, mais par exemple, les Schtroumpfs, là, je les connais pas mal par cœur. les petits classiques comme ça. J'étais fascinée notamment, c'est drôle, je le vois en ce moment par La Forêt, la manière que Peyo, puis Goscinny dessinait La Forêt. Ça c'est mes premiers émerveillements là, de la bande dessinée, c'était le décor, en fait, comment je trouvais ça beau. L'écorce, puis les mousses, puis c'était des forêts plus européennes. Mais Puis par la suite, j'ai arrêté de lire la bande dessinée pendant longtemps. Puis un de mes colocataires, quand j'avais, je pense, 19 ans, était vraiment un fan, un maniaque, là. Puis c'est lui qui s'est mis à me réalimenter, notamment par l'épaule d'abord. Puis ensuite, il y avait vraiment une grande diversité. J'ai travaillé longtemps au milieu interculturel, puis là, ben, il m'a fait découvrir comment la bande dessinée pouvait servir finalement de se projeter dans un ailleurs ou d'être capable de se mettre dans la peau des réalités complètement différentes. Et c'est par là que j'ai découvert, par exemple, Joe Sacco, Art Spiegelman, puis là, pour moi, ça a été immense coup de cœur, là. Puis tu sais, un peu plus tôt, je disais que j'ai l'impression que il y a beaucoup d'auteurs de BD, finalement, s'ils s'inscrivaient dans un programme, ben, ils pourraient le défendre. T'sais, leur bande dessinée pourrait devenir finalement des maîtrises ou des doctorats. Ben, pour moi, Joe Sacco, ça a toujours été, en fait, de l'ethnologie postmoderne, t'sais, ou l'anthropologie critique. Même si lui, il ne se définit jamais comme anthropologue, là, mais t'sais, tous les principes théoriques puis méthodologiques, t'sais, qu'on met de l'avant dans nos courants, ben, tout s'y trouve. Puis moi, c'est vraiment en lisant Joe Sacco. À l'époque, je voyageais, ça faisait une dizaine d'années que je voyageais à travers le monde, puis j'apprenais plus j'avais mis une pause dans les études, puis j'apprenais plus au contact finalement du partage de quotidien, de communauté un peu partout, puis en lisant en même temps, puis Guy Delisle un peu aussi, mais surtout Joe Sacco, je me disais, il y a tout là-dedans, il y a les postures théoriques, les fils perceptifs, l'angoisse, le malaise, comment il conduit ses entrevues, est-ce qu'il y a un, tu sais, ce qu'on appelle les thick descriptions, là, en anthropologie, de Clifford Geertz. Il y a tout. Puis l'analyse, ben, juste le fait qu'il choisit des extraits, qu'il les montre, qu'il les met en relation, bref. Fait que c'est vraiment là que j'ai commencé à me dire, j'avais commencé à faire des cours d'anthropologie entre mes voyages, puis je me disais, OK. Puis moi-même, j'utilisais beaucoup le cahier parce que j'étais tout le temps seule. Bon, ben, non, on n'est pas... J'étais seule entre les 40 pays, mettons, tu sais, puis
Oui.
j'avais vraiment besoin d'authentifier quelque chose, là, tu sais, d'avoir un fil conducteur, puis c'était beaucoup mon carnet de notes. Puis là, je me rendais compte à quel point je pouvais dire certaines choses par écrit, pardon, puis certains illustrés, ou faire des schémas, ou, tu sais. Puis je prenais beaucoup, 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 beaucoup de photos aussi. Fait que ben, c'est un petit peu comme tout ça. Fait que j'ai décidé de retourner, quand j'ai retourné à l'école, je voulais aussi en apprendre davantage sur notre relation avec les Premières Nations. J'avais découvert tellement de... Ben, pas découvert, j'avais rencontré tellement de Premières Nations ailleurs dans le monde. Tu sais, partage des quotidiens, j'avais appris un peu plus sur les réalités coloniales, puis tout ça, mais je connaissais absolument rien des Premières Nations de chez nous. Puis d'où, finalement, l'amorce de la maîtrise qui a donné... non, pas la maîtrise, pardon, le doctorat. Parce que je me suis dit, ben, avant d'être capable de conjuguer BD et recherche qualitative, il faut que je renforce un peu ma compréhension de qu'est-ce que la recherche, des outils qualitatifs plus traditionnels. Donc là, je suis allée faire une maîtrise plus conventionnelle qui m'a permis finalement de lier des relations de confiance avec des personnes autochtones, des groupes de Premières Nations. Puis là, ben, c'est au doctorat que je me suis mis, que j'ai essayé de faire une thèse. Bande dessinée, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, en anthropologie, on m'a accepté avec les bourses d'entrée, puis tout ça, mais on m'a dit, si tu veux faire tes petits dessins, par contre, c'est dans tes temps libres ou en annexe de
Ah
ta
bon?
thèse doctorale, oui, c'est ça. Puis là, tu sais, on sait qu'on a beaucoup de temps quand on fait une thèse doctorale, on ne sait plus quoi faire tellement qu'on a de temps, là, c'est tellement facile, mais vous comprenez que c'est ironique, là. Fait que là,
Oui.
ben, je savais que ça allait être voué à l'échec, puis ce qu'on me disait tout le temps, c'est ouais, mais les fois qu'on avait laissé faire de la recherche-création, c'était pas super niveau artistique, qu'est-ce que ça donnait. Mais en même temps, si on leur demande, si on reconnaît rien de visuel, puis on leur demande de faire le double travail, bien sûr que la bande dessinée, elle va être faite un peu, tu sais, quand on a le temps ou avec les moyens du bord. Puis, fait que c'est pour ça que je suis allée en éducation par les arts à Concordia, où il y avait une grande expérience en recherche-création, pas nécessairement en bande dessinée. Mais quand je suis arrivée là, on comprenait exactement ce que je voulais faire, puis ils m'ont vraiment appuyée là, pour réaliser le projet.
C'est quand même intéressant parce que en vous lisant, et quand j'ai lu pour la première fois C'est le Québec qui est né dans mon pays, c'est paru en 2021, peu de temps avant, à l'époque de Idle No More, juste avant le début de la pandémie, Joe Sacco publiait en traduction française d'abord chez Futuropolis son livre dont le titre m'échappe, mais
Payer
qui
la terre.
payait la terre.
Ouais.
Et quand je vous ai lu la première fois, je me suis dit, OK, il y a un lien filial avec Joe Sacco, est-ce que je suis dans le champ? À toute
Ben non, parce
vraisemblance,
que non.
non.
Non, parce qu'il m'a beaucoup. Moi, je ne savais pas qu'il travaillait sur les dénés du territoire du Nord-Ouest, là. Mais tu sais, j'avais lu beaucoup Palestine, j'avais lu avant d'aller, souvent par exemple, je passais quand même pas mal de temps en Yougoslavie, j'avais lu tout ce qu'il avait écrit sur
Corrigé, ouais.
ouais,
Oh!
Bosnie, le fixeur,
Ouais.
tout ça, Cahiers, Goradjé. Puis j'étais très inspirée, mais nos méthodes étaient vraiment différentes, t'sais, parce que lui, il se rend sur le terrain, il prend des photos, mais il sait qu'il va créer une BD avec, il ramasse ses matériaux pour ça. Tandis que moi, par exemple, dans le cas de C'est le Québec et dans mon pays, tout ça, c'est de l'après-coup. Donc, je n'ai pas eu un terrain associé à ça. Puis, tu sais, Joe Sacco, j'ai été inspirée par sa démarche, mais je n'essayais pas de marcher dans ses pas non plus. T'sais. Puis là, quand moi, la BD, c'est le Québec, c'est à peu près 5 ans que ça a pris parce que j'ai eu une grossesse, un congé de maternité, une commotion cérébrale. Il y a eu beaucoup d'étapes,
OK.
c'est la aussi, ouais. Mais c'est bien, ça a permis à la BD de se déposer, de réfléchir, puis tout ça. Mais là, quand il est sorti Pays la Terre, avant que je lise la BD, j'étais comme, mais non, là, t'sais, pour moi, c'était comme le ciel tombe sur la tête. Mais en même temps, à l'époque, on se disait, si on réussit à faire publier cette thèse doctorale-là, il va peut-être avoir 4-5 personnes qui vont la lire, fait que c'est pas bien grave, puis de toute façon, personne ne va nous comparer, puis... Mais j'étais encore une fois hyper impressionnée là, par c'est tellement, tellement un ouvrage important et mais oui, c'est sûr, là, il y a une inspiration directe là.
Mais le vôtre aussi, Emmanuel, est très important parce que quand on lit C'est le Québec qui est né dans mon pays, qui est un travail, qui est dingue de recension. Vous avez travaillé pendant des années pour réaliser ça, ne serait-ce que d'assembler tous ces témoignages-là, de donner un corps, une structure à tous ces témoignages-là. Et votre livre est fort important parce que justement, il donne la parole et... On a à peu près le même âge, un petit peu plus vieux. C'est sûr que dans nos cours d'histoire au secondaire, quand on parlait des Premières Nations, j'essaie de me souvenir si on parlait déjà à l'époque, dans les années 80, d'Amérindiens, puis je suis pas sûr.
Ben, comme je montre dans la BD, il y avait le fameux tableau, là, Algonquin, Iroquoien, des fois Inuit. C'est ça. On utilisait les termes amérindiens, justement, termes qu'on n'utilise plus aujourd'hui. En fait, je pense que quand nous, on était à l'école, le problème, c'était même pas tant de ce qui se trouvait dans nos manuels scolaires, encore que, tu sais, c'était très, comme le tableau était très polarisant, réducteur, puis tout ça. Mais c'était plus tout ce qui s'y trouvait pas le problème. T'sais, on ne parlait pas de pensionnat, on ne parlait pas de dépossession territoriale, ni de droits, ni c'est ça, de droits ancestraux. En fait, tout le chapitre, t'sais, tout, je dirais, entre la conquête britannique et la crise d'Oka, tout ce fossé-là qui est, à mon sens, le plus important à enseigner parce que c'est ce qui définit nos relations actuelles, puis les enjeux, puis qu'on essaie de rattraper, puis c'est ça. Fait que c'est bien beau apprendre, ils tressaient des paniers comme ça, mais c'est pas ça pour moi. Je pense que pour les enfants québécois, c'est pas l'essentiel à apprendre. L'essentiel, c'est nos questions, c'est relationnel. Mais c'est ça. Fait que c'est un gros problème. Puis comme j'ai lu dans la BD, moi, je me rappelle que ça m'ennuyait vraiment, là, t'sais, parce que c'était tellement désincarné. T'sais, il n'y avait pas d'être humain qui nous parlait, il n'y avait pas vraiment de photos. Il y avait comme des peintures qui étaient belles, mais t'sais, qu'on voyait pas vraiment les visages, les yeux. Tout était des facteurs, tout, c'est ça. C'est ce que j'essaie avec la bande dessinée, c'est d'incarner, mais tu sais, dans la grande diversité des Premières Nations, là, mais tu sais, qu'on voit des vraies personnes là, tu sais, qui parlent, ben encore là, c'est juste des petites fenêtres expérientielles, mais tu sais, qu'on associe finalement des êtres humains à ces tableaux-là qui étaient tellement ennuyants, à mon sens.
Moi, la crise d'Oka en 90, j'étudiais à Valleyfield, donc non loin de Châteauguay. Et c'était fou le discours à l'époque, là. On disait que on parlait des Indiens, des méchants Indiens qui payaient pas leurs taxes, qui vendaient des cigarettes de contrebande, qui étaient dangereux. On partait de très, très loin. Et
Ah, excuse-moi, mais en fait, c'est juste, tu sais, c'est aussi ce que j'essaie d'illustrer, là, le transfert de la représentation de toute l'iconographie, surtout pour les méchants Iroquois, entre guillemets, là, que ce qu'on apprenait, c'est ceux qui, nos parents, pas tellement nous, mais nos parents, nos grands-parents, puis pendant des générations, on a appris que c'était les méchants qui torturent nos missionnaires, presque qui les mangent dans une marmite. C'est le même groupe qu'on a démonisé à l'occasion de la crise d'Oka. Tu sais, qu'on a comme fait ce transfert-là, tu sais, aux méchants avec la cigarette, puis tout ça, des warriors sont armés. Mais jamais, tu sais, encore là, le couloir de pourquoi sont fâchés, pourquoi, c'est qui eux, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la question le cimetière, la Pinède, ça, on n'en parlait presque pas. Puis quand on regarde encore les archives de l'époque, la manière là, que c'était tourné, là, tant, 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 tu sais, comme des gros zooms sur les armes, puis tout ça, tu sais, mais en même temps, je pense que tout le monde dans la société est un peu, était tellement méconnaissant des réalités. Tu sais, je dirais que probablement les journalistes, les profs, tu sais, nos parents, tu sais, en tout cas, bref, c'est comme c'est systémique.
Ce qui est intéressant aussi, Emmanuel, c'est que je trouve que votre travail s'inscrit dans un travail qui a été amorcé il y a quelques années au Québec, notamment avec les livres de Michel Hellman. Louis Rimiard également. Et
Oui.
ce qui est intéressant, c'est que la prise de parole vient d'Alloctone. Alors moi, ma question est la suivante. Lorsque vous amorcez le travail sur C'est le Québec qui est né dans mon pays, comment êtes-vous perçu? Est-ce que vous sentez de la méfiance ou au contraire? Parce que en lisant le livre, clairement, on sent une ouverture totale et complète à votre égard, mais est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés en cours de travail?
Bien, ce qui est vraiment important, puis qui est peut-être pas très clair dans la bande dessinée, c'est que quand j'ai amorcé le projet, ça faisait déjà au moins 5 ans que je travaillais avec les Premières Nations. T'sais, donc, je ne les ai pas approchés pour faire une bande dessinée. T'sais, on a appris, t'sais, par exemple, je travaillais à l'Université de Montréal, on a créé ensemble les services aux étudiants autochtones, la semaine Mi'tigue, la semaine autochtone de l'UDM. On a créé, t'sais, plusieurs, ce volet jeunes autochtones. Fait que j'avais beaucoup, beaucoup de relations, d'amis. T'sais, comme, t'sais, c'est comme si où s'arrête l'histoire, le scénario de C'est le Québec dans mon pays. Ben, tout ça, on ne le voit pas, mais t'sais, ça, c'était construit. Fait qu'il y avait une relation de confiance préalable, ce qui est vraiment très, très, très important, qui est essentiel. Puis sans eux, je n'aurais pas fait de bande dessinée. T'sais. Donc, d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler sur la bande dessinée, parce que j'avais une scolarité avant, tu sais, j'ai 5 ans, là, mais je faisais des essais avant, tu sais, justement de passer à l'anthropologie, à la bande dessinée. Là, j'ai eu beaucoup de cours avant de commencer la thèse. Mais c'était à l'époque qu'on parlait beaucoup d'appropriation culturelle, c'est tu sais, le gros scandale qu'il y avait eu dans les médias là, sur l'appropriation, puis une parfaite incompréhension de qu'est-ce que l'appropriation culturelle, puis qu'est-ce que les groupes principaux demandaient. Tu sais. Fait que moi, j'avais fait des formations Concordia, l'Université Concordia, un super beau centre communautaire. Ben, c'est comme un centre histoire et récit digitalisé, puis c'est ouvert à tout le monde. C'est comme des artistes, monsieur, madame, tout le monde, des chercheurs. C'est vraiment communautaire. Puis il offrait une formation sur l'écriture réflexive ou sur l'appropriation culturelle ou l'appropriation du récit. Puis j'étais allée suivre des cours. Ça m'avait vraiment beaucoup brassée par rapport à. Mais avec pour le mieux, là. Mais par rapport à tu sais, toute la façon qu'on est élevé là, sur l'interculturalisme, on est tous pareils, on ne voit pas la couleur, puis tu sais, déverser son malaise, tu sais, comme si justement, tu sais, j'avais tu sais, plus un atelier d'écriture, fait que, tu sais, je parlais beaucoup de mea culpa, la culpabilité, puis tout ça. Puis ça m'avait vraiment fait cheminer là, parce que c'était un atelier d'écriture où il y avait des personnes noires, des personnes trans, des personnes queer, puis il y avait. Ça m'avait vraiment permis de comprendre un peu plus c'est quoi ma place à moi, comment mobiliser aussi les archives. Parce que moi, déjà, j'arrivais là avec l'impression, ça faisait déjà 5 ans que je travaillais en interculturel, j'avais plein d'amis autochtones, j'avais l'impression d'avoir comme compris comment être un bon allié, si tu veux. Mais finalement, je me rendais compte que non, tu sais, c'est un travail qui fait que j'avais encore bien des choses à déterrer, puis j'en ai encore, mais. Fait que, tu sais, au niveau de l'écoute, puis la sensibilité, puis tout ça, tu sais, ça a été un processus. Moi, j'ai vraiment suivi les contributeurs, contributrices de la BD, tu sais, c'est pas moi qui ai imposé. Il n'y a jamais eu de scénario à cette bande dessinée-là. Là, c'est vraiment comme une boule qu'on poussait sur la neige, puis devenait plus grosse, puis au gré des opportunités, puis tout ça. Puis je travaille sur une bande dessinée en ce moment sur la relation à la forêt, qui est aussi dans le cadre de mon travail de prof, puis... Ben, ou de chercheur plutôt. Puis c'est un peu la même chose. C'est vraiment, moi, cher de facilitation ou de fil conducteur ou bien de véhicule d'identification ou de différenciation pour le lecteur qui est comme, ah oui, comme moi, ou ah non, moi, c'est pas comme ça, pour avoir un dialogue ou une réflexion commune. Mais c'est pas, ça vient pas de mon imagination, tout ça. C'est vraiment comme c'est ça, je vois vraiment comme un travail de facilitation. Donc.
En tout cas, ce livre-là est une main tendue. J'imagine qu'il est à l'étude dans différents niveaux scolaires, que ce soit. J'ose espérer que ça commence au secondaire, que ça se rend jusqu'à
Oui.
l'université.
Mais ça, nous, ça a été un immense dis-nous, là, parce que les contributeurs, contributrices, là, qui sont nombre une cinquantaine, on a été tellement touchés et surpris par les réponses. T'sais, vraiment, là, quand on a eu la réponse éco-société, on se dit, ah, ben, il va peut-être avoir trois, quatre personnes de plus qui vont pouvoir le lire. Puis il y a eu une super belle réponse. Je pense que ça arrivait vraiment au bon moment aussi. C'était comme un petit peu. Puis c'est une BD qu'on a développée beaucoup aussi à travers des conférences, des dialogues publics, tout ça. Puis on le voyait un peu, c'était quoi le besoin là, de prendre un pas de recul, puis d'examiner. De s'examiner nous, tu sais, avant d'entrer. C'est aussi ce que les Premières Nations demandent souvent. Si vous avez un petit travail à faire avant de vouloir en apprendre davantage sur nous, tu sais, un peu comme dans une. L'idée, c'est pas de les voir comme dans une vitrine, puis qu'on veut avoir développé une compétence culturelle ou des plein de savoirs par rapport à eux, tu sais, c'est la question de penser ensemble. Fait que je pense qu'il est vraiment sorti au bon moment. Puis, oui, est utilisé dans des écoles secondaires, collégiales puis universitaires. Puis, on a même eu la chance de faire un guide pédagogique qui est sorti, qui est gratuit en ligne, avec 20, non, une douzaine de profs des niveaux secondaires, collégiales, universités qui ont partagé, là, tu sais, volontairement, là, puis avec beaucoup d'humilité, leurs matériaux, qu'est-ce que leurs outils pédagogiques pour la mise à l'étude de la BD. Puis, on a mis ensemble, encore là, comme une boule qui grossit. C'est vraiment toujours un petit peu ça. Puis, moi, c'est comme ça que je conçois de toute façon la production de savoir. Fait que pour moi, je trouve que c'est à la fois, ça fait office d'éducation, mais aussi de recherche, parce que le savoir, c'est pas juste qu'est-ce qui se passe dans l'université, puis avec les textes scientifiques et auteurs datent que, tu sais, que très peu de personnes lisent. Là, je pense que le but aussi, c'est d'ouvrir ça, puis que la bande dessinée, ou peu importe le texte ou le balado, ou, tu sais, continue à générer des questions puis des réflexions. Là.
En tout cas, pour un premier livre, vous avez, en analogie de baseball, vous avez vraiment cogné un coup de circuit parce que c'est un livre de fond. C'est-à-dire que, ce livre-là ne sera pas pilonné dans 2 ans. C'est un livre qui va vivre longtemps dans les institutions, qui va. T'sais, et ça, je veux dire, c'est admirable. Parce qu'en plus, c'est ce que vous faites avec ce livre-là, c'est que vous permettez à des gens qui généralement ne lisent pas de bande dessinée et vous les amenez vers le médium avec votre sensibilité, avec votre intelligence, avec votre approche, avec votre tonalité. Et ça, bravo! Parce
Mais
que
merci.
c'est le défi de la bande dessinée, en fait, c'est de sortir de son carcan puis d'aller chercher des lectrices et des lecteurs extérieurs à ce médium-là,
Ben,
justement.
c'est peut-être justement, c'est drôle parce qu'on dit la même chose, nous, de nos universités. On dit, tu sais, un peu comme je disais juste à l'instant, c'est d'aller chercher des gens qui ne lisent pas des articles scientifiques. Puis, dans le monde de la BD, c'est d'aller chercher des gens qui ne lisent pas de la BD pour leur donner le goût. Tu sais, fait que c'est un peu, des fois, c'est un peu l'avantage quand on est dans l'entrecase ou l'intercase, dans le
Ouais.
gutter, c'est qu'on n'est pas encore, on est accessible peut-être, parce qu'on n'a pas tant des codes, on n'est pas moulé dans
Ouais.
aucune. Fait que ça fait que les gens qui sont, tu sais, moi je connais pas tant la recherche, mais ça, je suis capable de lire, ou moi je lis pas la BD, mais je suis pas perdue en lisant ça. Puis encore, c'est ça que moi je trouve formidable, la BD, c'est que, tu sais, j'ai pas l'impression de. Par exemple, j'ai fait un projet il y a quelques années, là, c'était planche de la BD à l'Université Laval, puis on opérait des chercheurs avec des vrais illustrateurs de BD, tu sais. Je trouvais ça intéressant parce que quand je les écoutais parler, puis je voyais, moi, nous, je faisais partie des formateurs avec justement Martin, puis Pierre, et alors Émile Lombard, tu sais,
Oui.
oui, c'est ça.
Oui.
Et de la sociologie, là, la sociologie illustrée. Puis j'écoutais les vrais BDistes, puis tu sais, surtout ceux qui sortent de l'UQO, là, tu sais, puis je me
Ouais.
disais, ah, eux, ils parlent en code, puis ils connaissent les codes, puis tu sais, j'avais de la... Mais je trouvais ça excellent, leurs idées, c'était incroyable, mais tu vois qu'il y avait vraiment une grosse réflexion sur le médium en tant que tel. Moi, j'ai écrit des textes, j'ai analysé sur le médium, mais c'était plus comment le médium peut contribuer à... Tu sais, c'est toujours dans une perspective de, tu sais, plus sciences humaines, tu sais. Fait que, tu sais... Fait que je pense que c'est un peu l'opportunité. Tu sais, il y a beaucoup d'inconvénients à ne pas avoir de formation. Puis, ne serait-ce que quand on le fait là, au niveau de la production. Puis, tu sais, mais sauf qu'il y a des avantages, je pense, au niveau de, tu sais, aller chercher d'autres publics, tu sais, des publics qui sont peut-être moins habitués à des cases ou à, tu sais, au code de la BD, mettons.
Et donc, ce qui mène à un deuxième livre, Quand les élèves se révoltaient, co-réalisé avec Francis Dupuis-Déry. Là, c'est intéressant parce que, d'une part, vous travaillez avec un scénariste, donc vous collaborez, ce qui est quelque chose de, au niveau de la structure qui est différent de votre premier livre. Mais en plus, on est encore dans l'essai, mais là, on est dans. Comment je pourrais dire? On est comme dans la politique dystopique, mais pas tant que ça. C'est
Un autre
vraiment.
budget qu'on ne sait pas où mettre.
Ouais, et je dois dire que en prévision de l'entrevue, je l'ai relu. Et avec ce qui se passe aux États-Unis avec ICE, je veux dire, votre livre prend encore une fois, il s'incarne tellement dans l'actualité, dans la réalité du moment. Alors, dans le fond, ce livre-là, c'est un espèce de faux guide scolaire, un faux manuel scolaire qui parle, qui aborde en fait l'implication au niveau de la démocratie. Hein, comment manifester? Bon, évidemment, on a connu ici au Québec le printemps érable. Bon, Greta Thunberg est venue aussi pour la marche annuelle pour la Terre. Mais c'était comment justement de passer. Parce que même si dans la structure, ce livre-là est quand même a beaucoup de liens filiales avec C'est le Québec qui est né dans mon pays, mais c'était comment justement de passer dans d'un autre matériau, là, d'aborder l'angle social, peut-être plus par la politique
Ouais.
et par l'engagement. C'était comment?
Mais la grosse différence, je dirais, c'est que Francis avait déjà réalisé la recherche quand il m'a sollicité. Tu sais, comme il a travaillé plusieurs années, il avait fouillé avec ses étudiants, je ne sais pas combien d'articles de journaux, là, des milliers là, à travers le monde, à travers au minimum 100 dernières années. Après ça, il avait réalisé plusieurs dizaines d'entrevues déjà. Puis c'est Barbara, notre éditrice à Éco-Société, qui avait mis dans les mains C'est le Québec et dans mon pays quand il lui avait parlé qu'il voulait faire une bande dessinée parce que justement sa recherche portait sur les jeunes, l'implication des jeunes, mais des jeunes en bas de 18 ans. Puis il y avait une étudiante, Francis répète souvent, il y a une étudiante qui lui avait dit, mais Francis, tu vas faire quoi avec ta recherche? Puis elle avait dit, ben, faire une monographie de 300 pages que personne ne va lire. Puis elle avait dit, mais non, mais ça fonctionne pas pour les jeunes, tu vas pas faire ça. Puis là, c'est là qu'elle a fait, ah oui, OK. Bon, évidemment, c'est caricatural, je suis sûr que Francis avait une pensée plus complexe que ça, le connaissant. Mais, fait que là, c'est ça. Donc, il m'a approchée. Puis c'est ça, la grosse différence, c'est que là, je lisais ses articles scientifiques, je lui parlais, je lui posais des questions. Puis là, c'est ensemble qu'on a monté le scénario. T'sais, donc, j'ai fait quelques recherches complémentaires au niveau des images, mais aussi au niveau des exemples et tout ça. C'est drôle parce que même Francis faisait d'usine quand il était jeune. Fait qu'il y avait-tu d'usine punk un peu, là? Fait que là, j'avais dit, ben, gars, essaie, fais le premier storyboard. Puis il est arrivé avec des gros cartons parce qu'il est vraiment, tu sais, on a fait des photocopies. Puis ça, il n'est pas super technologique. Fait qu'il avait, mais il avait essayé de faire les premiers storyboards. Tu sais, puis je trouvais que c'était bien parce que ça l'a mis dans le bain. Tu sais. Puis il a fini par dire, bon, gars, je pense que chacun sa job. Tu sais. Mais on travaillait vraiment ensemble. Tu sais, je proposais des scénarios, il modifiait le concept, puis la structure, c'était peut-être un peu plus moi, mais le texte était beaucoup plus lui. Mais c'était vraiment là un travail d'équipe pour toutes les dimensions. Évidemment, l'illustration, c'est plus moi, mais on choisissait les images puis tout ça ensemble. Parce que c'était quand même sa recherche, tu sais. Fait que c'est ça la grosse différence. Mais il y a vraiment beaucoup de mécanismes, je pense, qui se ressemblent, tu sais, notamment l'utilisation d'archives, la mobilisation de citations directes. Tu sais, dans le cas de quand les élèves se révoltaient, là, c'est des élèves qui ont été. C'est issu des entrevues de Francis. Évidemment, là, la structure était différente parce qu'on est allé justement faire des photocopies là, dans une bibliothèque à l'UQAM de livres pédagogiques pour avoir une référence parce qu'on voulait que les gens reconnaissent des éléments visuels pour qu'ils s'identifient. Tu sais, donc, savais-tu que, les
Les
encadrés,
mots
les
croisés.
mots croisés. Et ça, Francis s'est fait vraiment un malin plaisir de définir les questions là, dans le mot croisé. Tu sais, même des questions de mathématiques là, pour savoir combien de temps la manif a le temps de marcher du point A à B avant de se faire arrêter par la police, des choses comme ça. Mais aussi au niveau des couleurs, tu sais, le mauve, c'était comme la polycopie de l'époque. Le rouge, c'était les livres en France. Le vert, c'était le. Fait que, bref, on a beaucoup joué avec ça, mais on trouvait ça intéressant d'inventer comme, tu sais, on pourrait dire, ben, c'est pas vraiment de la BD, mais encore là, tu sais, pour moi, la BD, c'est juxtaposition d'images et des fois texte, pas toujours.
Non, effectivement.
raconter une histoire, tu sais, fait que moi, je pense que ça rentre dans la grande famille.
Et c'est un coup de maître parce que pour celles et ceux qui avaient lu C'est le Québec qui est né dans mon pays et qui tombent sur ce livre-là, malgré la collaboration, on est encore tout à fait, même si c'est un sujet autre, mais pas tant que ça finalement, mais on est tout à fait dans un livre d'Emmanuel Dufour. Et ça
Avec
aussi.
celui-là, avec Francis, beaucoup
Oui, ce
plus.
que je, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'un
Oui, la
lecteur ou une
signature.
lectrice reconnaît votre signature dans le travail.
Oui. Ben c'est je, oui, je ne ben je pensais pas à ce point-là, mais je pense que oui, finalement.
Et ça, c'est pas banal, parce que souvent, dans le fruit d'une collaboration, ça se dilue un peu, parfois il y a une perte de chaleur, ou en tout cas, on sent que tout à coup, il y a des compromis un peu plus. Et là, quand les élèves se révoltaient, pas du tout. C'est une lecture très, très fluide, très dense aussi, hein? C'est très
Ah oui,
copieux.
ça va être tout le temps mon. Ça, je pense que ça fait partie de la signature très dense. Mais tu sais, il faut dire que c'est encore Barbara, c'est la même éditrice d'Éco-Société qui a travaillé avec nous. Puis Francis était hyper ouvert. Tu sais, c'était sa recherche, mais il n'était pas comme mes données, ma recherche. Là. Tu sais, comme je me rappelle quand je lui ai proposé le concept dystopique, là, tu sais, de l'après-effondrement, puis tout ça. Au début, il était un peu perdu de l'avant, après, puis tout ça. Puis il a pris une nuit, puis le lendemain, il était comme j'embarque. Tu sais, comme il était vraiment hyper willing, puis généreux. Puis fait que ça fait que c'est possible parce que on n'a pas eu l'impression de tirer la couverture chacun de notre bord. Là. Je pense que c'était vraiment comme un. On savait que le texte était un petit peu plus lui, puis le dessin c'était un peu plus moi, mais il y avait vraiment une belle collaboration. Puis ça aussi, ça s'est étendu sur plusieurs années. Je pense même que Francis m'a approché pour cette BD-là. Ben non, ça se peut pas, j'allais dire avant que l'autre BD sorte, mais ça se peut pas, mais
Ouais.
quelques mois après, là, tu sais, ça s'est vraiment étalé sur plusieurs années, ça aussi.
D'ailleurs, ce livre est en lice au prix des collégiens.
Ah ouais.
Donc un livre qui est lu par les cégeps à travers le Québec.
Ça, c'est vraiment très, très cool. C'est le plus beau prix qu'on pouvait. Ben, le plus bel. Tu sais, déjà, le fait d'être en nomination pour moi, là, c'est fait parce que le but, c'est de le faire lire, notamment par des jeunes. Puis le processus de ce beau concours-là, c'est de le faire évaluer puis lire par des jeunes. Fait que, tu sais, j'étais particulièrement contente, là, de cette nomination-là.
Ben, en tout cas, félicitations déjà d'être
Merci.
nommé, comme vous le dites,
Ben oui, tout à fait.
chez ce lectorat-là en plus,
Exact.
de
Ouais.
surcroît, là, ça pouvait pas mieux vraiment mieux, peut pas mieux tomber.
Mais tu sais, comme à la base, peut-être juste dire, tu sais, à la base, base, quand on a commencé à travailler avec Francis, je me demandais, oui, mais à qui s'adresse la BD que tu veux faire, tu sais. Lui, déjà, c'était les jeunes, tu sais, comme. Puis là, je disais, bon, c'est ça, tu sais, Francis et moi, j'ai des enfants, pas Francis. On n'a pas le même, on n'a pas la même posture politique, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça que lui, il était plus, oui, pour les inciter. Moi, je disais, oui, mais tu sais, ça dépend comment. Sauf que moi, je lui disais, moi, j'aimerais que ce soit un BD aussi qui ne soit pas que pour les jeunes, qu'on vise finalement 7 à 80, ben non, pas 7, mettons 15 à 97 ans. Parce que l'idée aussi, c'est que par l'exemple des jeunes, de voir comment des jeunes à travers le monde ont eu l'impulsion, sans l'apprendre à l'école, de se mobiliser pour des causes qu'ils croyaient justes, ça peut nous donner un peu, comme vous disiez un peu plus tôt, une petite leçon de démocratie, que la démocratie, c'est pas juste aller porter ton petit billet aux 4 ans, puis aller voter pour celui le même que ton voisin, ou bien pour le même depuis 40 ans, ou bien pour le changement, peu importe quel changement, tu sais. Je pense de voir la beauté de qui est propre à la jeunesse, je pense, là, mais de la mobilisation souvent très spontanée, puis très, très vraie, puis proche d'une humanité qui, tu sais, en vieillissant parfois, finit par s'éroder par les responsabilités, les devoirs, ou si juste le fait qu'on voit tellement de choses qu'à un moment donné, on s'habitue, tu sais, à l'inacceptable, puis tout ça. Mais bref, l'idée, moi, j'espère que c'est une BD qui va être aussi lue par les plus vieux, à les anciens enfants. Les anciens enfants, on a tous été enfants, mais de peut-être de reconnecter un petit peu avec ça. Puis comme vous disiez, en ce moment, je pense que c'est vraiment, vraiment, ben ça fait longtemps qu'on ça se prépare, puis on le voit que ce serait le temps de changer de paradigme, là, ou de discours, ou de posture. Là, ça change, et ça change peut-être pas du côté qu'on aurait souhaité, en tout cas que j'aurais souhaité, mais oui, c'est ça. Donc c'est très large, là, comme on souhaite rejoindre, tu sais, tous les âges avec ça.
Ben, il faut d'ailleurs que ce livre-là soit lu par le plus grand nombre et par différentes générations, justement parce que, comme vous le disiez si bien, on a tous déjà été jeunes.
J'aurais croire, mais oui.
Certains matins où c'est plus difficile à croire,
Oui.
mais je pense que c'est un livre aussi qui est important, justement parce que c'est une passerelle, hein? C'est une manière de créer le dialogue entre différentes
Oui.
générations.
Ben ça, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit dans les salons du livre qu'ils l'avaient lu avec leurs ados, puis que ça, il y avait eu des super belles conversations qui étaient nées de ça. Puis d'autres nous ont dit, en lisant ça, je me suis rappelée, moi, la première fois que j'ai manifesté, puis le pourquoi, puis comment qu'on se sentait, puis ça m'a. Tu sais, c'est pas obligé d'être manifesté, c'est pas obligé de prendre la rue, c'est pas obligé de faire des slogans, c'est pas obligé de faire une bande dessinée. En fait, c'est la question de trouver une façon de s'engager pour le changement qui te ressemble, qui est à la mesure de ce que tu peux faire, ce que tu es capable de faire. Parce qu'on le sait, l'engagement politique, c'est quand même. Ça nécessite une certaine disponibilité. Tu sais,
Ouais.
on n'est pas tous, on n'a pas tous autant d'énergie, de temps à y mettre. Tu sais. Mais il y a vraiment différentes façons. C'est pour ça qu'on a voulu montrer toutes sortes d'exemples, tu sais, de façon là, que les jeunes se sont mobilisés malgré qu'il n'y avait aucun pouvoir politique.
C'est aussi le fait qu'on vit à une époque où tout le monde est en silo dans des chambres d'écho et que les algorithmes nous réconfortent dans nos positions.
Ouais.
Et la lecture d'un ouvrage comme le vôtre, ben justement, ça bouscule, ça implique de prendre un moment pour vraiment réfléchir, puis pour voilà, sonder à l'intérieur, voir différentes perspectives. Et je pense qu'on en a cruellement besoin.
Oui, tout à fait, oui. Puis c'est vrai que c'est la raison qu'on a mobilisé autant les photos d'archives. D'une part, c'est qu'on voulait, tu sais, l'idée, c'était pas de voir comment Emmanuel Dufour imagine une manifestation en 1947 en Argentine, là. C'était d'être capable de se servir des archives puis des photos pour essayer de rendre, mais toujours, c'est sûr, il y a toujours un filtre là, quand tu dessines, mais de rendre quand même le plus proche possible cette illumination, mais aussi cet esprit, cette groupalité, de voir ensemble, puis de voir l'expression des jeunes quand ils sont ensemble, puis qu'ils se lèvent. Puis toute la compilation de tous ces groupes-là, différents à travers le temps et l'espace, que ça aussi, ça crée comme une autre unité, même si c'est pas pour la même cause, tu sais, mais ce sont tous comme pour des valeurs, tu sais, qu'on dirait proches du cœur, tu sais. Donc, c'est ça, c'était l'effet de groupe. Aussi, c'est bien que vous le notez parce que c'était vraiment une des idées de la BD.
En tout cas, chose certaine, Emmanuel Dufour, c'est passionnant de vous lire. Vous faites un travail admirable et important
Merci, c'est gentil.
à plusieurs égards que j'ai énoncé tout au long de cette entrevue-là. Donc, merci beaucoup de votre temps. Je vous souhaite bon vent pour la suite parce qu'on
Oui.
a hâte de vous lire encore.
Ben non, mais c'est ça, si je peux me permettre,
Oui.
à l'automne, il y a une nouvelle bande dessinée. Le titre de travail, c'est Redessiner sa relation à la forêt, de la cime jusqu'à la racine. On va voir comment ça sort, mais ça va sortir chez Multimonde cet automne, normalement. Puis c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment ressemblant à, ou c'est une posture qui ressemble à C'est le Québec qui est dans mon pays, parce que c'est, mais qui ouvre l'axe d'analyse. Il y a beaucoup de codes qui sont repris, même des liens à faire. Ça peut être même vu presque comme un tome 2, mais là, on ouvre l'axe d'analyse aux non-humains, puis à la forêt. Personnes autochtones, non-autochtones, tu sais, des gens du Québec qui parlent, que ce soit autant dans les milieux militants, les environnementalistes, les forestiers, les chercheurs, les gens qui travaillent sur le terrain. Les Autochtones, porteurs de savoir autochtones, qui éclairent cette même question de nos forêts, mais depuis différentes perspectives, pour justement encore là ouvrir le dialogue avec le lecteur ou la lectrice qui se pose la question, moi, c'est quoi ma relation à la forêt ou c'est quoi ma représentation de la forêt? Parce que ça, c'est un autre dossier qui a vraiment besoin beaucoup d'attention et de soins, là. Il y a beaucoup de dossiers en ce moment qui auraient vraiment besoin d'amour, mais celui-là, il est assez. La question du territoire et des écosystèmes, c'est assez de base parce que le reste peut difficilement se défendre ou aller bien si on y voit pas sérieusement.
Alors, on vous retrouve donc, excellente nouvelle, cet automne dans nos librairies, dans nos bibliothèques, entre nos mains. Emmanuel Dufour, merci beaucoup.
Mais merci beaucoup, c'est vraiment agréable.
Pour suivre Emmanuel Dufour, rendez-vous au emmanueldufour.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca. À bientôt.